Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale RFI, 5h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
Vincent Dublange.
Afrique Matin, le tour de l'actualité africaine en une demi-heure et on commence par le journal à la une. Cette nouvelle tentative aujourd'hui de médiation au Soudan du Sud, l'Union africaine et envoie ses sages à la manœuvre, deux de ses sages en tout cas, mais pour le moment les autres essais de ce genre diplomatique n'ont pas réussi à faire retomber la tension. Le vice-président Riek Machar est toujours en résidence surveillée en état de Djouba dans un instant. Un ancien de la ZANU-PF qui manifeste. Et ce sont les tensions internes au parti au pouvoir au Zimbabwe qui éclatent au grand jour. Certains accusent le président Mnangagwa de vouloir se maintenir au pouvoir. Nous serons à Kinshasa dans quelques minutes. Reportage sur ces délestages d'électricité très très problématiques. On parlera aussi du rapprochement entre l'Algérie et la France puisque lundi soir, les présidents Tebboune et Macron se sont parlé au téléphone. La tension demeure forte, les inquiétudes internationales comme locales. Aussi, au Soudan du Sud, l'accord de paix et de gouvernement est toujours sur un fil. Le vice-président, je vous le disais, Riek Machar, est en résidence surveillée. Ça fait une semaine maintenant. Il y a été contraint par les forces de sécurité loyales au président sud-soudanais, son rival Salva Kiir. Il y a plusieurs tentatives, plusieurs initiatives diplomatiques pour tenter d'apaiser cette tension qui menace de dégénérer en guerre. L'ancien président kényan Raila Odinga était à Djouba il y a quelques jours au nom de l'Organisation de la Corne de l'Afrique, IGAD. Ce mercredi, ce sont deux sages de l'Union africaine qui sont dépêchés sur place. Florence Mieto.
La médiation de l'Union africaine parviendra-t-elle à briser le blocage politique en cours à Djouba? C'est l'espoir de Joram Biswaro, ambassadeur de l'Union africaine au Soudan du Sud. Joint par RFI, il affirme que la visite du groupe des sages est, je cite, « une mission de solidarité avec le peuple du Soudan du Sud pour voir comment la crise peut être désamorcée ». La tâche de la délégation de l'Union africaine s'avère difficile. Vendredi 28 mars, Raila Odinga n'avait en effet pas eu la permission de rencontrer Riek Machar. L'ambassadeur Joram Biswaro explique que l'intention du groupe des sages est bel et bien de, je cite, « s'adresser à tout le monde, au président, au premier vice-président, aux autres vice-présidents et partis politiques, ainsi qu'aux églises et à la société civile, afin que le Soudan du Sud émerge de cette crise ». Créé en 2007, le groupe des sages a pour but d'appuyer les efforts du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits. Conseil paix et sécurité qui a appelé hier à la libération immédiate et sans condition du vice-président Riek Machar. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Va-t-on vers la signature de l'accord sur la restitution, au moins partielle, de l'archipel des Chagos ? À Maurice, il est en cours de finalisation, dit le Royaume-Uni, qui affirme que les États-Unis de Donald Trump ont validé le document. Le bureau du Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam affirme que son pays discute en effet avec Londres des derniers détails de cet accord annoncé par son prédécesseur en octobre. Radio France Internationale, il est 5h33 à Paris et à Harare, la capitale du Zimbabwe, où ce sont quasiment 100 personnes que la police a arrêtées lundi. Elle manifestait contre le président Emmerson Mnangagwa. Les protestataires étaient peu nombreux, mais ils battaient le pavé à l'appel d'un ancien du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Qu'est-ce que cela dit de la situation politique dans le pays? Décryptage RFI, Alexandra Branjon.
À peine 200 personnes se sont rassemblées lundi sur la place de la Liberté à Harare. Elles ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre, déployées en force dans le centre-ville. L'appel à la mobilisation avait été lancé par Blaise Geza, un ancien combattant de la guerre d'indépendance et ancien cadre du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Signe, selon plusieurs analystes, des tensions grandissantes au sein de cette formation politique. Depuis plusieurs mois, une faction de la ZANU-PF pousse pour un changement de constitution qui permettrait au président Emmerson Mnangagwa de se représenter pour un troisième mandat lors du scrutin de 2028. Un projet qui nourrit la colère d'une partie de la population. Le chef de l'État est âgé de 82 ans et le pays est englué dans une grave crise économique imputée à la corruption et à la mauvaise gestion du gouvernement. Certains craignent que cette nouvelle contestation au sein de son propre parti ne serve de prétexte au chef de l'État pour déclarer l'état d'urgence et suspendre la constitution.
Et ce lundi, la police zimbabwéenne était également déployée dans la seconde ville du pays, Bulawayo, où entreprises et administrations étaient fermées. Le président Mnangagwa, qui préside en ce moment également la SADC, l'Organisation d'Afrique australe, qui s'est mise d'accord. On en parlait en fin de semaine dernière avec le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC. D'accord sur le retrait du gros millier de soldats sud-africains, malawites et tanzaniens déployés à Goma et bloqués depuis la prise de la ville par les rebelles fin janvier. Que prévoit cet accord ? RFI vous en livre les grandes lignes. Rendez-vous sur notre appli RFI ou sur notre site internet le www.rfi.fr. Cette affaire qui fait grand bruit maintenant en République démocratique du Congo, le décès d'un policier après une altercation avec des membres de l'escorte sécuritaire de la première ministre la semaine dernière à Kinshasa. Une enquête est ouverte par le parquet militaire. Tout cela s'est passé sur fond d'embouteillage monstre et d'un cortège officiel qui s'est affranchi du code de la route. Judith Suminois, la première ministre, exprime son profond regret, je cite, après la mort du brigadier Fiston Kabeya. Les détails, là aussi, sur RFI.fr. La capitale Kinshasa, engluée dans les bouchons, et les délestages d'électricité. Lundi matin, sur notre antenne, un mouvement de la société civile congolaise disait « Trop, c'est trop ». Pour la Société Nationale d'Électricité, la SNEL, difficile en effet de produire assez de courant pour une ville en plein boom démographique. Kinshasa compte déjà près de 17 millions d'habitants. Reportage RFI sur place, Pauline Azidi.
En cette fin de matinée, la commune de Lingwala, au centre de Kinshasa, vibre au son des motos, des klaxons, mais aussi des groupes électrogènes postés devant les différents commerces, comme celui de Théophile.
Je vois que devant votre magasin, qui fait de l'impression, en fait, vous avez votre générateur qui tourne.
Oui, là, les générateurs, là, malgré ça, on ne peut pas repasser. Il n'y a pas d'électricité. Et c'est pour cela que notre patron a acheté les générateurs pour nous faciliter le travail.
Même bruit de générateur au bar de Georges. Pour lui, les coupures régulières s'expliquent par la vétusté du réseau.
Parce qu'il n'y a pas de courant ici, là, on fait ça.
Il y a souvent des coupures ici ?
Plusieurs fois. Dans tous les secteurs, il n'y a pas de nouveaux câbles. Tout ça, c'est les anciens. Ça ne marche pas.
Des coupures qui agacent Sylvie, l'une de ses clientes.
On est déjà habitué de rester dans les noirs, hein, à Kinshasa. Donc s'il y a des courants aujourd'hui, on va faire une semaine sans courant. Et deux jours sans courant, c'est toujours comme ça. Comme les gars, mon téléphone est fermé parce qu'il n'y avait pas moyen que je charge. Je ne vais pas charger la nuit et à 6h, c'est déjà parti.
Rebecca, une autre quinoise, se dit plutôt chanceuse au niveau de la fourniture électrique. Dans son quartier, confie-t-elle, il y a du courant, au moins une fois par jour. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
En bref, en Afrique de l'Ouest, quelques infos pour vous dire que le pouvoir de transition guinéen annonce la date du référendum constitutionnel. Ce sera le 21 septembre. Décret présidentiel du général Doumbouya lu hier soir à la télévision publique. La Guinée ou l'ONU, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits humains, dénoncent la grâce accordée vendredi par le général putschiste à l'ancien putschiste Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison au procès du massacre et des viols du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Un mot enfin du Niger, où la junte annonce, c'était hier soir tard, la libération de plusieurs prisonniers de l'ancien régime renversé en juillet 2023. Libération également de militaires condamnés sur la dernière décennie au Niger pour tentative de coup d'état. Des libérations qui devraient, selon nos informations, être effectives ce mercredi.
Bamenda, 105.8 FM.
C'est l'une des réalités de la crise dans les deux régions anglophones au Cameroun. Dans les territoires où les groupes armés sont actifs, les habitants ne peuvent pas enterrer leurs défunts sans payer un droit de passage, un fardeau supplémentaire dont les familles essaient de s'acquitter tant que possible pour respecter les traditions. Témoignage d'un habitant de Bouéa, la capitale de la région du Sud-Ouest, rencontrée par Amélie Tulé.
Sur son téléphone, Wally écoute le message d'un proche. Il organise les funérailles de son grand frère, Divine, mais pour ramener le corps au village, il faut négocier avec les séparatistes.
Quand ils savent que vous venez de la ville, ils prélèvent un certain montant avant de vous laisser entrer. Ils le font même aux gens du gouvernement, de l'administration. La nuit, avant l'arrivée du corps, il faut envoyer quelqu'un donner l'argent, le riz ou les vaches aux boys. Là, vos invités, votre famille, peuvent venir pour les funérailles.
Pour enterrer sa mère l'an passé, la famille de Wally a dû payer 300 000 francs. Pour son frère, le montant et la date ne sont pas encore fixés.
Pourquoi devrais-je payer pour ramener mon frère chez lui ? Est-ce normal ? C'est juste que je ne peux pas affronter ces gens. Je me sens frustré et impuissant.
Mais enterrer son frère dans un cimetière à Boya lui paraît impossible.
C'est ainsi que nos parents ont fait. Nous devons faire pareil. Quand le corps arrive près de la maison, on se met à appeler le défunt en lui disant « Viens, viens, nous rentrons. Viens, tes proches t'attendent. »
To your own place. Your people are waiting for you. Come, come back.
Nous croyons que l'âme de la personne nous entend et nous suit, et qu'elle pourra reposer en paix.
Sans la paix dans notre pays, pas de paix dans nos cœurs et nos familles, conclut avec émotion Wally en regardant une photo de son frère. Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Au Sénégal, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale examine aujourd'hui un projet de texte pour réviser la loi d'amnistie controversée adoptée l'an dernier sous Macky Sall. Controversée cette loi car elle annule les poursuites pour tous les crimes et les délits qui ont été commis entre février 2021 et février 2024 au cours de manifestations de l'opposition. Elles ont fait au moins 65 morts, mais alors que les autorités au pouvoir depuis un an avaient dans un premier temps promis d'abroger la loi, cette proposition d'interprétation de la loi, d'amendement finalement, elle divise. Les explications à Dakar de Léa Lisa Vesterhoff.
Si le projet de loi du parti au pouvoir, le PASTEF, est adopté, seront exclus de l'amnistie les faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, les cas de torture ou encore les traitements inhumains, cruels ou dégradants, et ce même s'ils ont eu lieu au cours de manifestations entre février 2021 et 2024. Pour les défenseurs du projet de loi, cet ajout va permettre aux familles des 65 personnes tuées pendant les manifestations, dont 51 par balle, d'ouvrir une procédure judiciaire et des enquêtes pour identifier les responsables de ces morts. Permettre aussi à toutes les victimes d'obtenir réparation et de ce fait éviter l'impunité. Mais en face, 20 organisations de la société civile et des membres de l'opposition s'inquiètent d'un deux poids deux mesures avec un projet de loi qui dispense de poursuite tous ceux qui ont commis des dégâts matériels et que cette loi d'interprétation ne protège au final les militants du PASTEF, le parti aujourd'hui au pouvoir. Enfin, certains continuent de réclamer l'abrogation pure et simple de la loi. Pour le député du PASTEF Amadou Ba, cette option n'a pas pu être retenue car n'étant pas rétroactive, l'abrogation ne permettait pas de remettre en cause l'amnistie accordée il y a un an. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Les avocats de la famille d'Ali Bongo dénoncent le silence de la France et sa complaisance vis-à-vis des tortures subies, selon eux, par l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils, Noureddine. Ce sont des ressortissants français. Les autorités ont le devoir et l'obligation d'assurer leurs droits. C'est ce que disait hier lors d'une conférence de presse à Paris l'une des avocates de la famille Bongo. La France, dont la relation avec l'Algérie est à nouveau au réchauffement, le président Tebboune avait semblé ouvrir la voie, ouvrir la porte il y a une dizaine de jours dans une interview. Lundi soir, il a eu au téléphone directement son homologue Emmanuel Macron. Dans la foulée, un communiqué commun a été publié. Il évoque des nouvelles relations entre les deux pays, diplomatiques, économiques, migratoires et sécuritaires. Et cette reprise des échanges doit s'engager tout prochainement à Alger, Guillaume Thibault.
Ne pas tomber dans le brouhaha politique, c'était le souhait déclaré d'Abdelmadjid Tebboune. Et le chef de l'État a dû être rassuré dès le début de l'année, car depuis janvier, la cellule diplomatique de l'Élysée s'est rendue 3 fois à Alger pour poser les nouvelles bases des relations entre les deux pays. C'est d'ailleurs la dernière visite, il y a quelques jours, indique une source diplomatique, qui a débouché sur l'entretien téléphonique lundi soir entre les deux présidents, qui ont donc parlé de refondation avec une volonté de résultat, notamment sur les questions migratoires. Première étape annoncée, la réunion qui doit se tenir rapidement entre les 18 consuls algériens basés en France et les préfets pour rétablir au plus vite une coopération migratoire plus fluide, indique Paris. Autre point visiblement crucial, la relance immédiate de la coopération sécuritaire, des échanges entre services, notamment sur les problématiques terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour marquer cette volonté diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est annoncé à Alger ce dimanche. Son homologue de la justice, Gérald Darmanin, devrait également se rendre rapidement en Algérie.
Et c'est en Algérie qu'il a passé une partie de sa vie, le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, grande figure de la lutte anticoloniale sur lequel sort aujourd'hui un biopic au cinéma en France. Dans ce portrait cinématographique de l'auteur des Damnés de la Terre, on se concentre sur son travail à l'hôpital de Blida, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Elisabeth Le Quéré.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Il a transformé notre regard sur le racisme et la colonisation. En 1953, Frantz Fanon, un jeune psychiatre martiniquais, arrive à l'hôpital de Blida. Sa couleur de peau et ses méthodes novatrices lui valent l'hostilité de sa hiérarchie, mais l'admiration de ses collègues arabes et de leurs familles. Désentraver les fous, c'est du jamais vu. Dans l'Algérie des années 50, théâtre d'une guerre de libération sans pitié,
l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat.
Jean-Claude Barny filme la genèse d'un intellectuel et de son œuvre majeure, Les damnés de la terre, mais aussi son engagement politique auprès du FLN. Parfois étouffé sous le poids de la reconstitution historique, le film n'en est pas moins nécessaire, car il donne à entendre l'une des voix les plus vibrantes de la pensée anticolonialiste et antiraciste, une voix qui résonne aujourd'hui bien au-delà de son contexte historique.
Elisabeth Le Carré, notre spécialiste cinéma sur Radio France Internationale. On connaît la liste des 12 joueurs qui peuvent prétendre cette saison au titre de meilleur footballeur africain de Ligue 1, le prix Marc-Vivien Fauet, RFI France 24 sur les rangs pour succéder au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. 3 Sénégalais, Lamine Camara, Habib Diarra et Moussa Niakate. 3 Ivoiriens, Yaya Fofana et Van Gessant. Et Ahmed Junior Traoré, 2 Marocains, le favori, Achraf Hakimi. Et Elias Ben Seguir. Il y a enfin 2 Algériens, Imad Abdelli et Amine Gouiri. Le Nigérian Moses Simon et le Guinéen Abdoulaye Touré. La liste sera réduite à 3 joueurs le 5 mai et le jury d'une centaine de journalistes, consultants et anciens pros du foot désignera le 12 mai le grand vainqueur. Côté terrain, il y avait hier soir de la Ligue africaine des champions, victoire d'Orlando Pirates, des Mamelodi Sundowns, de l'Al Ahly du Caire et des Pyramids dans la CAN U17. Cette fois, succès hier du Sénégal, du Mali, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire au premier tour. Journal des sports complet dans une heure.
Afrique Matin sur RFI.
Et l'on poursuit dans le quart d'heure qui vient avec notamment les matières premières ce matin sur la petite récolte de cacao en Côte d'Ivoire, le principal producteur mondial avec le Ghana. Dans un contexte compliqué, nous dira notre spécialiste Marie-Pierre Rolfand. On sera aussi en RDC, dans l'ancien Grand Katanga, où les transporteurs congolais attendent beaucoup de cette mesure décidée. La priorité aux transporteurs congolais pour au moins 50% du convoyage des importations et exportations. Mais tout cela sera difficile à mettre en œuvre. Mais d'abord, RFI reportage dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où l'on continue à prendre langue avec les traditions du pays ouest africain. Nous sommes ici dans la région de Man, tout près des frontières du Libéria et de la Guinée. On y raconte que des ponts sont construits par des puissances magiques en une nuit. Des ponts de lianes au-dessus du fleuve Kavali qui coule à travers la région forestière. Une forêt largement défrichée désormais pour laisser place aux caféiers et aux cacaoyers. La tradition locale Yakuba est donc en danger. Benoît Almera s'y est rendu. Il a emprunté l'un des ponts de liane. Même pas peur.
C'est un pont de liane qui est au-dessus du Kavali. Alors il faut essayer de le traverser. Il faut bien se tenir parce que sinon on va passer au travers. En fait.
À 3 mètres au-dessus du fleuve, les aventuriers n'emmènent pas large sur l'enchevêtrement de branches qui grincent.
Est-ce que ça va, madame ?
Florence est institutrice. Elle est venue avec sa famille jouer les Indiana Jones.
J'avais l'impression que le pont bougeait. Quand je regardais en bas, en tout cas, il y avait la trouille. Vraiment, ça fait peur, ça fait peur. Mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions, c'est émouvant, tout ça. Tout le monde a vraiment l'envie de venir voir ce pont qui, du jour au lendemain, on voit, il y a un pont qui existe, on ne sait pas comment.
Lieu-Pleu fait partie des 4 ponts de liane historiques de la région. Les villageois les traversaient pour aller au champ. Aujourd'hui, les touristes visitent chaque jour ces passerelles éphémères. Valère Gba est l'un des guides locaux.
Quand l'eau emporte ça, les initiés disent aux guyots de chanter pour couper les lianes. On prend les camions pour aller couper les lianes, pour mettre les lianes dedans pour envoyer.
Une puissance magique construirait ensuite les ponts en une nuit. Il est interdit de marcher dessus avec ses chaussures ou de mâcher un chewing-gum quand on traverse. Problème, les lianes sont de moins en moins disponibles, selon Valère Gba.
Avant, le liane était là, mais maintenant, le liane là, c'est vraiment dur à rechercher. Ici, avant, il y avait les forêts, mais maintenant là, cacao, café, les parents ils ont planté, nous-mêmes on a planté. Donc, les lianes disparaissent comme ça.
Pour trouver des arbres à lianes, il faut faire 100 km jusque dans les pays voisins. Le docteur Doudjo Ouattara est biologiste forestier.
Il y a une raréfaction qui est réelle et qui est liée donc à la déforestation générale que connaît la Côte d'Ivoire. Donc, si ces plantes disparaissent, et quelle que soit la bonne volonté des communautés, ben, elles ne pourront pas tisser ces ponts.
Ce chercheur à l'université Nangui Abrogoua d'Abidjan veut sauvegarder les arbres à lianes.
Déjà de faire un inventaire des espèces qui sont utilisées utilisée par ces communautés et in fine faire des réintroductions dans la nature et augmenter donc le stock de ces plantes.
Un projet initié et soutenu par la direction du tourisme de la région du Tonkpi. Benoît Almeras, Lieu Pleu, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr sur notre appli de podcast RFI Pure Radio. Et on l'entendait il y a un instant, si la culture du cacao prend autant de place dans plusieurs régions ivoiriennes, c'est qu'elle rapporte. Le pays est le premier fournisseur mondial de la fève qui finira en tablette de chocolat. C'est aujourd'hui que le prix du cacao, du kilo de fève de cacao garanti aux planteurs ivoiriens doit être annoncé pour la récolte dite intermédiaire, la petite récolte d'avril à juillet, qui succède à la récolte principale qui vient tout juste de se terminer. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
La petite campagne, comme on l'appelle, s'ouvre dans un contexte difficile en Afrique de l'Ouest.
Et oui, l'année dernière, la Côte d'Ivoire a vu sa récolte baisser de plus d'un quart et cela a été un vrai coup dur pour le premier fournisseur de fèves au monde. Derrière cette baisse, il y a des raisons structurelles et d'autres liées au climat. Personne ne croit aujourd'hui à une production qui remontera à 2 ou 2,2 millions de tonnes comme pendant les belles années, mais il n'y a pas pour autant de consensus sur les chiffres prévisionnels. L'Organisation internationale du cacao table sur une récolte meilleure que l'année dernière. Du côté du Conseil Café Cacao, l'organisme ivoirien de régulation, on est plus pessimiste et on craint de ne pas faire mieux, voire moins, c'est-à-dire moins d'1,7 million de tonnes et moins de 400 000 tonnes pour la petite campagne qui débute.
Et la nouvelle récolte, Marie-Pierre, qui débute, est-ce qu'elle va suffire aux industriels ?
Alors environ la moitié de cette petite récolte a déjà été vendue à l'avance, mais ça veut dire qu'il en reste autant qui n'a pas encore trouvé preneur. Signe que les multinationales ne se précipitent pas et qu'elles sont prêtes à ne pas faire tourner leurs usines de broyage à 100% de leur capacité. Les industriels lèvent donc le pied, peut-être en espérant que les prix baissent, mais aussi parce qu'au bout de la chaîne, les chocolatiers commandent au compte-gouttes.
Bon, il y a un marché qui tourne au ralenti, des incertitudes de production, vous venez de le dire. Les autorités ivoiriennes dans ce contexte jouent la prudence, c'est ça? Elles ont décidé de limiter les ventes par anticipation?
Effectivement, en temps normal, quand la production est bonne, 80% environ de la récolte ivoirienne est vendue avec plusieurs mois d'avance à un prix fixe. En ce moment, la grande récolte qui débutera en octobre prochain est donc en train d'être commercialisée, mais tout doucement, juste pour tester le marché sans prendre de risque, assure une source au sein du Conseil Café Cacao. La hantise de la filière est de revivre le scénario de l'année dernière. Selon les chiffres officiels, 80 000 tonnes de cacao avaient été vendues en trop par rapport à la récolte, ce qui veut dire autant de contrats qui n'ont pas pu être honorés en temps et en heure et ont dû être reportés sur la saison suivante.
Merci beaucoup Marie-Pierre Olfan, notre spécialiste matière première.
Vincent Dublange.
À la une de l'actualité internationale de ce mercredi 2 avril, la Cour d'appel de Paris qui annonce avoir été saisie de trois recours, trois appel après la condamnation, notamment à une peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National d'extrême droite, pour des détournements de fonds publics. La Cour d'appel qui dit envisager un procès en appel rapide qui pourrait laisser à la dirigeante d'extrême droite la possibilité de se présenter à la présidentielle de 2027 en cas, bien sûr, de décision de justice favorable. Aux États-Unis, c'est ce soir que le président Trump doit annoncer son programme de droits de douane. Encore en train d'être peaufiné, d'après sa porte-parole. Les États-Unis imposeront-ils une taxe unique de 20% sur les importations? Toutes les importations, des droits de douane, taillés sur mesure selon les pays d'où proviennent les marchandises, ou opteront-ils pour un prélèvement plus modéré, concentré sur un groupe restreint d'États? Hypothèse révélée par le Wall Street Journal. On aura la réponse à partir de 20h temps universel, 22h heure de Paris. En Birmanie, on compte désormais plus de 2700 morts après le séisme de vendredi dans le centre du pays. Bilan encore provisoire, alors que plus de 1000 secouristes étrangers sont arrivés sur place. Le prochain journal dans 7 minutes, 6 minutes même sur RFI. Avant ça, l'économie africaine, Africeco. En RDC, les transporteurs congolais ont désormais la priorité pour assurer 50% du convoyage des marchandises qui entrent et qui sortent du pays. La décision du gouvernement congolais date d'il y a un mois et elle est très bien vue depuis le poumon économique du pays, dans l'ancien Grand Katanga, au sud-est de la RDC. Mais dans la région de Lubumbashi et de Kolwezi, à la frontière de la Zambie, les défis sont également nombreux car les sociétés congolaises de transport sont des naines du secteur, de Denise Maéo.
Près de 300 véhicules par jour franchissent la frontière de la Zambie.
À ce jour, plus de 95% des trafics est assuré par des sociétés étrangères, ce que déplore ce transporteur congolais qui a requis l'anonymat.
L'une des raisons est justement les coûts élevés pour les transporteurs routiers congolais. À titre d'exemple, au niveau de la Zambie, nous payons 1 000 $ de coûts supplémentaires que tous les autres transporteurs, ce qui fait que nous ne sommes plus concurrentiels.
En effet, depuis 2021, la Zambie applique la réciprocité car du côté congolais, les frais de péage routiers sur le tronçon Kasumbalesa-Kolwezi sont de 900 $, alors que dans les pays de la SADC, ils sont fixés à 10 $ pour 100 km. De son côté, Philippe Senève, le président du comité des transporteurs congolais au sein du patronat à Kolwezi, évoque une autre difficulté.
Sur les corridors sud, ce sont les sociétés minières installées au Congo qui ont des sociétés de transport en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud, en Tanzanie.
En vue de stimuler l'industrie de transport, le ministère congolais des Transports a signé récemment un arrêté accordant un droit préférentiel aux transporteurs locaux. Jean-Marie Abolia est secrétaire général au ministère des Transports de la RDC.
Cet arrêté accordant aux transporteurs locaux droit de préférence à hauteur de 50% des marchandises va sans nul doute accroître le nombre de transporteurs et travailleurs locaux et impacter positivement l'économie tant au niveau national que provincial.
Pour le patronat congolais, grâce à cette mesure, 4 000 emplois seront créés dans la région du Katanga. Aussi, un revenu mensuel évalué à 23 millions $ généré par ce secteur restera au pays. Mais les défis sont énormes vu le nombre réduit des transporteurs locaux. Rita Ilunga, la responsable du comité des transporteurs à Lubumbashi, se veut néanmoins optimiste.
Nous devons les accompagner à atteindre une flotte d'au moins 3500 camions avec un chargement journalier évalué à 110 camions qui représente effectivement les 50%.
Entre-temps, les transporteurs locaux attendent du gouvernement congolais une diminution du coût de péage routier ou tout simplement l'exonération de ses frais.
Merci Denise Maillot pour toutes ces explications. Pour cause de grève hier pour la défense de l'audiovisuel public français, pas de journal de nos confrères de France Télévisions, du réseau La Première dans l'océan Indien, mais on va en profiter pour faire un détour chez nos amis programmateurs musicaux de Radio France Internationale. Ils sélectionnent chaque mois la crème des sorties musicales. Je vous propose de jeter une oreille ce matin au duo maroco-tunisien Aïta Mon Amour, composé de Widad Mjama, une pionnière du rap marocain passionnée par les traditions orales ancestrales, et de Khalil Epi, multi-instrumentiste tunisien qui fusionne la musique classique arabe avec du jazz et des sonorités venues du monde entier. On écoute Amela qui figure sur leur premier album. Duo maroco-tunisien Aïta Mon Amour dans la playlist du mois RFI. Merci aux programmateurs musicaux. À la une de la prochaine édition africaine dans une demi-heure avec Nemo en piste. Ces précisions RFI, on a lu la feuille de route du retrait des forces de la SADC de Goma. Ça se fera par l'aéroport. On vous en parlait la semaine dernière. On a un peu de détails. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis à l'instant, on apprend le décès de l'acteur Val Kilmer. Il avait 65 ans. On en parlera bien sûr ce matin sur Radio France Internationale.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du festival Quai du Polar qui se tient tout le week-end à Lyon, je reçois l'une des invitées, l'écrivaine américaine Lisa Gardner, dont le nouveau roman policier raconte une randonnée cauchemardesque en forêt où tous ne rentreront pas vivants. Un thriller intitulé « Dernière soirée ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.